Frères et sœurs bien-aimés, en ce quatrième dimanche de l'Avent, alors que nous sommes en ces temps qui sont les derniers, dirigés vers le retour du Christ dans la gloire, nous nous préparons à faire mémoire, lors des fêtes de la Nativité, de l'incarnation de notre grand Dieu. Le mot « incarnation » signifie « venu dans la chair ». Voilà que Dieu, qui n'est que pur esprit, qui n'est que toute intelligence, qui est éternel, accepte de s'abaisser pour devenir un homme limité dans le temps. Et s'il le fait, c'est par amour pour nous et pour venir nous sauver. Venir nous sauver de ce péché qui, depuis l'origine avec Adam et Ève, nous gangrène. Il est bien plus facile de faire le mal, de répondre à l'insulte par l'insulte, que d'opérer les œuvres de la vertu, les œuvres du bien. Le Seigneur vient pour nous sauver. Et voilà qu'en prenant chair, dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, il se dirige vers la croix où il offrira sa vie en sacrifice par amour pour nous, pour le pardon de nos fautes, pour nous délivrer de la mort comme du mal qui nous gangrène. Peu après le péché d'Adam et Ève, il y a le proto-évangile, la bonne nouvelle qui commence lorsque Dieu, en punissant Ève, déclare « Dans ta descendance, une femme mettra à mal le mal, elle écrasera la tête du serpent figurant le démon. » Alors qu'Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, figurant le paradis, un ange est placé à la porte de ce jardin, puisque la vie éternelle ne nous était plus promise. Et voilà que dans le récit de l'Annonciation que nous venons d'entendre, cet ange qui se tenait à la porte ouvre celle de la demeure de la bienheureuse Vierge Marie. Saint Luc, au commencement de cette page d'Évangile, a développé un suspense qui nous laisse en suspens. L'ange est envoyé dans une région, la Galilée, plus précisément dans une ville, Nazareth, envoyé à une jeune fille, vierge de son état, promise à un homme, Joseph, de la tribu du roi David. Et le nom de la jeune fille était Marie. Pourtant, l'ange, en entrant chez Notre-Dame, ne la salue pas en l'appelant Marie. Il lui déclare avec révérence « Je vous salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. » Si la Sainte Vierge est bouleversée de cette salutation, si sa foi se met à craindre, c'est parce que qu'un ange lui parle avec autant de déférence n'est pas dans l'ordre des choses. Nous sommes inférieurs aux anges. Ainsi donc, la Sainte Vierge perçoit, dans la pureté de sa foi, qu'il n'est pas dans l'ordre des choses qu'un ange vienne s'incliner devant elle. Serait-elle donc supérieure aux anges ? Oui, par le privilège de sa conception immaculée. Si l'ange lui déclarera que l'enfant qu'elle va porter sera saint, si la Sainte Vierge, ensuite de la Visitation, dans son Magnificat, placera au cœur de cet hymne « Saint est son nom », c'est-à-dire « Saint est tout son être », c'est bien que dans son sein virginal, elle a été préservée de ce péché originel. Elle est conçue sans cette tache qui vient entacher tout le rapport que nous pouvons avoir avec Dieu, avec le prochain, avec la création. Elle ne comprend pas pourquoi cet ange l'appelle comblée de la grâce. Elle ne comprend sans doute pas pourquoi le Seigneur est avec elle, avec ce sous-entendu de l'ange, comme il n'est avec aucune autre créature. Et voilà que l'ange va ensuite l'appeler Marie, ce qui signifie « souveraine ». La bienheureuse Vierge Marie est la reine des anges, et voilà que l'ange lui fait part, de la part du Dieu Très-Haut, de sa vocation. Vocation pour laquelle elle a été préparée dans le ventre de sa mère, Sainte Anne, dès le premier instant de sa conception. Vous allez concevoir et enfanter un fils qui sera celui du Très-Haut. La vocation de Notre-Dame se réside en ces deux termes, concevoir et enfanter. Le Seigneur n'utilise pas la bienheureuse Vierge Marie comme une mère porteuse, il a pour elle un dessein bien plus grand. C'est là toute la dignité de Notre-Dame, concevoir et enfanter le Verbe de Dieu dans l'ordre de la chair. Le bon Dieu aurait pu nous sauver sans l'intermédiaire de notre humanité, mais en passant par la bienheureuse Vierge Marie, en faisant d'elle la nouvelle Ève, il va permettre que le nouvel Adam, qui n'est autre que le bon Dieu lui-même, vienne à notre secours. L'humilité de la crèche de Bethléem que nous contemplerons dans quelques jours commence déjà dans ce récit de l'Annonciation où le Verbe de Dieu commence à prendre chair dans la bienheureuse Vierge Marie. Elle va le concevoir, puis elle va l'enfanter. Mais sa vocation maternelle ne s'arrête pas là. La mère de famille ne se contente pas de mettre au monde un enfant et de s'en aller. Il va falloir que la bienheureuse Vierge Marie, assistée de Saint Joseph, éduque cet enfant, mieux encore, qu'elle l'élève, comme l'on disait jadis, avec les réalités du ciel. Et cet enfant sera élevé jusqu'au jour où il déclarera sur le bois de la croix, « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». La bienheureuse Vierge Marie reconnaît donc avec grande humilité combien elle est la servante du Seigneur. Mais pour approfondir encore cette maternité virginale, il nous faut nous rendre à la grotte de Massabielle à Lourdes. La Sainte Vierge choisit la date du 25 mars 1858, 9 mois avant les fêtes de la Nativité, jour béni où dans l'Église nous faisons mémoire de l'incarnation du Verbe de Dieu, de l'Annonciation qui lui est faite, du commencement de cette bonne nouvelle. Si je vous disais au commencement de notre méditation que Saint Luc mettait en scène le nom de la bienheureuse Vierge Marie à Lourdes, la Sainte Vierge ne répond pas facilement à cette question plusieurs fois répétée par Sainte Bernadette. « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de bien vouloir me dire quel est votre nom ?» Bernadette posera cette question le 18 février. Et les reposera à partir des 3 apparitions du mois de mars jusqu'à ce 25 mars, où Bernadette ne posera pas cette question une fois, ni deux fois, ni 3 fois, mais 4 fois. Alors la dame, dans un geste ample et solennel, qui prend la terre, l'envoie au ciel et fait descendre le ciel sur la terre, répondra en notre patois, Que soyera Immaculada Conception, et moi je suis l'Immaculée Conception. Que la Vierge soit l'Immaculée, qu'elle soit sans la tâche, nous le savions. Mais que la Vierge se présente en conception, de quoi veut-elle parler? À quelle réalité nous renvoie-t-elle, si ce n'est à sa vocation maternelle, inscrite dans cet évangile selon Saint Luc, rapportant les paroles de l'archange Gabriel, vous allez concevoir et enfanter. Bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie va concevoir et enfanter dans l'ordre de la chair le Fils de Dieu, mais sa vocation maternelle au pied de la croix est bien plus grande. C'est le dessein de Dieu pour elle. Elle a pour mission de nous concevoir et de nous enfanter dans l'ordre de la grâce. C'est ainsi que la Bienheureuse Vierge Immaculée dans la grotte de Lourdes se présente à nous comme notre mère, la mère de l'Église. Et cette Église lui est bien chère, puisque nous sommes les membres du corps du Christ, dont le Seigneur est la tête. Elle doit donc nous concevoir et nous enfanter, c'est pourquoi elle nous appelle à Lourdes. Auprès du Gave, comme le Baptiste était au bord du Jourdain, à la conversion, à revenir vers Dieu, de tout notre cœur, dans la prière pour les pécheurs, nous dit-elle, en faisant pénitence. Et elle le répète non pas une fois, mais trois fois, non seulement parce qu'elle sait que les Bigourdans, nous avons la tête aussi dure que nos montagnes, mais également qu'il n'est pas facile d'entendre que dans la vie spirituelle, nous avons également à coopérer à notre salut en posant des actes concrets. Et la Vierge nous indique le chemin. « Allez à la source, nous dit-elle. Boire et vous y laver, cette source n'est autre que celle qui jaillit du cœur du Christ, celui qui vient sauver nos péchés. Pour être conçu et enfanté en véritable enfant de Marie, il nous faut donc vivre notre foi. » Dans un monde qui ne veut plus en entendre parler, mais cela le regarde. Soit nous sommes avec le Christ, soit nous sommes contre lui, nous dit-il. Et la Vierge veut que nous faisions le choix, celui de son oui à l'archange Gabriel. Enfin, à la fin de cette page d'Évangile, nous avons entendu l'annonce d'une autre naissance impossible, celle de sa parente Élisabeth, qui était montrée du doigt parce qu'elle était stérile. Qu'avait-elle donc fait au bon Dieu pour ne pas enfanter, pour ne pas transmettre la vie? Et voilà que l'archange lui dit que même dans sa vieillesse, Élisabeth est enceinte et qu'elle en est à son sixième mois, elle qui mettra au monde Jean le Baptiste, qui vient en précurseur préparer ce chemin de conversion. Et l'archange, qui accueille l'acte de foi de la Bienheureuse Vierge Marie, de conclure par ces mots qui doivent habiter toutes nos prières. « Rien, lui dit-il, rien, il n'y a pas d'autre acception du terme « rien ». Rien n'est impossible à Dieu. » Nous avons donc à prier avec cet élan de foi, celui d'enfant de Marie pleinement confiant en Dieu. Car notre monde et notre France n'en ont que faire de chrétiens qui soient tièdes. Nous avons besoin que les chrétiens soient brûlants de cet amour de charité, une charité qui commence par l'amour de Dieu, et alors se transmet envers l'amour du prochain. Rien n'est impossible à Dieu. Prions donc Notre-Dame, celle qui a conçu et enfanté notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair, de nous concevoir et de nous enfanter dans l'ordre de la grâce, pour entendre au dernier jour la Trinité Sainte nous dire, aux portes du ciel ouvertes par le sacrifice du Christ, « Entrez maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de votre Maître, ainsi soit-il. »